Emmanuelle Orlandi est-elle encore vivante? A-t-elle été enlevée par une organisation terroriste ou bien par des truands qui essayent de brouiller les pistes? Et si la jeune fille n'est pas morte, qu'attendent les kidnappeurs pour donner la preuve qu'Emmanuelle est bien entre leurs mains?
Bonsoir. Emmanuela Orlandi aurait fêté la semaine dernière ses 53 ans. Elle en avait 15 lorsqu'elle a disparu en plein cœur de Rome à la faveur de l'été 1983. Son nom va alors être associé à l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire, une disparition qui, tout de suite, n'est pas comme les autres. Emmanuela est la fille d'un employé du Vatican qui veille notamment sur l'emploi du temps du pape Jean-Paul II. Le Saint-Siège va se retrouver en première ligne dans cette affaire pour rester en filigrane tout au long des investigations. Jamais enquête n'a suscité autant d'interprétations, de suppositions, d'interrogations et, il faut bien l'avouer aussi, de fantasmes. Ainsi, l'affaire Emmanuela Orlandi continue aujourd'hui encore d'alimenter les rumeurs les plus folles, mettant en cause le Vatican, soupçonné d'entretenir l'omerta sur ce dossier pour raison d'État. Il sera raconté que Emmanuela Orlandi a été enlevée pour servir de monnaie d'échange, pour obtenir la libération d'Ali Aksa, l'homme qui voulait tuer le pape, victime encore du crime organisé ou de religieux très haut placés qui auraient contraint l'adolescente à participer à des orgies sexuelles au Vatican avant de la faire disparaître. Autant de pistes que nous allons explorer ce soir avec nos invités de l'heure du crime. Le corps d'Emmanuela Orlandi n'a jamais été retrouvé. Les investigations régulièrement closes et rouvertes s'emballent régulièrement au gré du moindre indice. Une quête de vérité toujours aussi vive. Le dossier Orlandi, digne des meilleures pages du Da Vinci Code, agite plus que jamais les imaginations.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, le mystère Emmanuela Orlandi. À l'été 1983, l'adolescente s'évapore en quelques minutes dans les rues de Rome. Elle ne va plus donner aucune nouvelle d'elle. Aurait-elle tout simplement fugué sur un coup de tête? Ce mercredi 22 juin 1983, à Rome, alors qu'une chaleur étouffante règne sur la ville, Emmanuela Orlandi arrive en retard et en s'excusant à son cours à l'école de musique, l'école Tommaso Ludovico da Victoria, qui dépend du Vatican, plus précisément de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée. Emmanuela est en classe de première au lycée scientifique de Rome. Elle vient ici trois fois par semaine pour prendre des leçons de flûte traversière. C'est une jeune musicienne attentive et douée qui fait partie du chœur de l'église Sainte-Anne, autre institution animée par le Vatican. La jeune fille est vêtue d'un chemisier blanc, de jeans et de baskets d'ordinaire. Elle est ponctuelle, mais aujourd'hui, elle semble avoir la tête ailleurs. Si elle est en retard, explique-t-elle, c'est parce qu'elle a dû téléphoner à l'une de ses sœurs aînées. Celle-ci, Federica, attestera de ce coup de fil. Emmanuela lui aurait dit avoir croisé un homme conduisant une BMW verte. Ce dernier lui aurait dit qu'il travaillait pour une firme de cosmétiques, les produits Avon. Il lui aurait proposé de défiler, moyennant une jolie somme, 375 000 lire, le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Federica lui aurait conseillé de se méfier et d'en parler tout d'abord aux parents. Est-ce à cause de cette rencontre impromptue qu'Emmanuela Orlandi n'est pas très concentrée à son cours de flûte? Le fait est qu'elle demande à quitter la leçon 10 minutes en avance à 18h50. À l'extérieur, elle retrouve l'une de ses amies, Raffaella Monzi. À elle aussi, elle parle de cette offre de travail très bien payée pour faire de la publicité pour des produits cosmétiques. Les deux adolescentes doivent prendre le bus pour rentrer respectivement chez elles, mais Emmanuela ne monte pas. Il est aux alentours de 19h30. Elle part à pied. Quelques semaines plus tard, un policier, en fonction devant le Sénat, dira avoir reconnu vers 20h Emmanuela à bord d'une BMW de couleur vert foncé, conduite par un homme d'une quarantaine d'années, mince et atteint de calvitie. Effet de contagion, sûrement. Les témoignages sur la fameuse BMW vont se multiplier. Dans la soirée de ce 22 juin, les parents d'Emmanuela, Ercole Orlandi, employé laïc du Saint-Siège, à la préfecture de la maison pontificale, et son épouse Maria ne voient donc pas arriver leur fille. La famille compte 5 enfants et habite un appartement au sein du Vatican, dans ce qui s'appelle la cité léonine, l'enceinte autour de la basilique Saint-Pierre. Il s'agit peut-être d'une fugue, même si l'adolescente n'a montré aucun signe avant-coureur, pas de dispute, aucune contrariété. Ce jour-là, dans la matinée, elle est allée faire des courses à l'épicerie avec sa petite sœur Christiana pour le repas du soir, de quoi faire une pizza. Elles ont toutes deux déjeuné ensemble dans l'appartement. Emmanuela a ensuite fait quelques répétitions de flûte traversière dans le salon. À 15h30, elle est allée voir son grand frère, Pietro, dans sa chambre. Elle lui a demandé de l'amener à moto jusqu'à l'école de musique, mais il a refusé. Elle a donc pris l'autobus. Dans un premier temps, les carabiniers demandent à la famille de ne pas s'affoler. Emanuela Orlandi est toutefois officiellement déclarée personne disparue. Le lendemain, jeudi 23 juin, la police donne un numéro de téléphone pour recueillir les témoignages. Le 69 84 982. Bonsoir Nicolas Senez.
Bonsoir.
Vous êtes ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix, journaliste. Vous avez été en poste à Rome pendant 4 ans. Qui est cette famille Orlandi qui, je l'ai brièvement raconté, vit dans l'enceinte du Vatican, ce qui est un peu particulier. Que fait son père notamment ?
Alors, il travaille à la préfecture de la maison pontificale, c'est-à-dire c'est l'administration vaticane qui s'occupe de la vie quotidienne du pape. Toutes les questions de l'intendance et tout ça. Donc il y a des religieux qui dirigent et puis des laïcs autant de petites mains qui vivent au Vatican avec leur famille pour être à la disposition quasiment 24 heures sur 24 des besoins du pape et de son entourage.
Est-ce à dire, Nicolas Senez, que le papa Orlandi est en contact avec le pape ? Parce qu'on va voir que effectivement la maison pontificale va être au cœur de cette affaire, malgré elle, mais peut-être au cœur de cette affaire.
Alors, ce n'est pas un contact rapproché, ce n'est pas le premier cercle des serviteurs quotidiens du pape, c'est quelqu'un qui peut avoir accès au pape, mais bon, là... La préfecture de la maison pontificale, le Vatican, c'est comme beaucoup de monde. Hein, le Vatican, il y a 2000 personnes qui y travaillent. Donc tous ne sont pas en contact quotidien avec le pape. Ce n'est pas les gens les plus proches de Jean-Paul II à l'époque.
C'est ça. Philippe Ridet, vous êtes également ce soir dans le studio de l'heure du crime. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes ancien correspondant à Rome, vous, pour le journal Le Monde. Cette histoire qui va vraiment défrayer la chronique et qui continue aujourd'hui encore à agiter les imaginations. Tout de suite, à l'époque, on sent qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal qui se passe. Elle prend une ampleur particulière, cette histoire.
Elle monte très très vite, mais aussi pour des questions qui tiennent à la modernité de cette époque, des années 80, puisqu'il va y avoir une campagne d'affichage très vite, 3000 affiches placardées dans Rome, avec le portrait de cette jeune fille, avec son bandeau dans les cheveux. Elle a quelque chose d'assez moderne pour l'époque.
Jolie fille, moderne.
Jolie fille, elle semble sortie d'une comédie musicale américaine de ces époques-là. Le pape lui-même va faire mention de son et de son enlèvement. Donc, immédiatement, il va y avoir une sorte de...
D'effervescence, c'est ça ?
D'effervescence, et puis le Vatican, quand on est romain, puis quand on est italien, le fait d'y travailler, c'est pas rien, ça suscite aussi de l'envie, de la jalousie, de l'admiration, de la crainte, enfin, ils sont pas si nombreux les gens qui ont cette nationalité vaticane dont on soupçonne qu'ils payent les médicaments à la pharmacie du Vatican à moitié du prix, qu'ils payent des impôts qui sont pas les mêmes que les Italiens, enfin, il va y avoir très vite les ingrédients d'une story, on va dire... qui peut effectivement, et puis la presse italienne qui est pas la plus manchotte hein, en Italie, on sait traiter du fait divers,
oui,
on sait pisser la copie, donc très vite il va y avoir effectivement une sorte de brouet comme ça dans lequel vont se déverser des impatiences, des attentes, des jalousies, des envies, enfin bref, il va y avoir petit à petit un portrait de l'Italie qui va se dessiner à travers cette affaire.
Nicolas Senez, évidemment on va venir sur l'allocution du pape qui est importante, qui va marquer un déclic dans cette histoire. Au tout début, comment réagit le Vatican ? C'est le silence ?
Alors c'est le silence, c'est un peu compliqué pour le Vatican, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a la citoyenneté vaticane qui disparaît, mais en même temps ça se passe complètement en Italie. Donc c'est les autorités italiennes qui sont compétentes pour enquêter. Mais il faut bien avoir conscience que cette citoyenneté vaticane, c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de technique. C'est quelque chose qui vient se rajouter à la nationalité d'origine des personnes qui la détiennent pour simplement les protéger, leur permettre d'assurer leurs fonctions. Ouais. Alors effectivement, du coup, toute personne qui travaille au Vatican, qu'elle ait d'ailleurs ou pas la nationalité, se retrouve avec effectivement des avantages, peut avoir un logement...
Mais dans tous les cas de figure, Nicolas Senez et Philippe Ridet, la question est pour les deux, sont les carabiniers qui s'occupent de cette affaire.
Hein c'est l'Italie.
Elle a disparu sur le territoire italien.
Qu'on soit très clair.
Le Vatican n'a d'autorité que sur les 44 hectares que constitue la cité du Vatican. Tout ce qui se passe en dehors, c'est l'autorité de l'État italien.
De l'État italien.
Et Emanuela Orlandi reste italienne. C'est-à-dire qu'elle est vaticane à cause des fonctions de son père. Mais le jour où son père arrête de travailler au Vatican, il redevient complètement et à 100% italien.
Les témoignages vont se multiplier et l'affaire va brutalement s'accélérer car le pape, en personne, va sortir de sa réserve et, contre toute attente, évoquer cette disparition qui, dit-il, est un enlèvement. Le dimanche 3 juillet, 13 jours après la disparition d'Emmanuela Orlandi, le pape Jean-Paul II lance un appel aux ravisseurs lors de la prière de l'Angélus. Devant quelques centaines de fidèles sur la place Saint-Marc, le Saint-Père évoque clairement la thèse d'un enlèvement. C'est la première fois que ce mot est prononcé officiellement. Jusque-là, la police n'a parlé que de disparition. Autant dire que cette allusion à un rapt et à une possible séquestration vont tout de suite attirer la curiosité et faire couler beaucoup d'encre. La question est sur toutes les lèvres. Le Vatican est-il au courant de quoi que ce soit dans l'affaire Emmanuela Orlandi ? Son frère Pietro en sera toujours convaincu. Il déclarera qu'aucun pape n'a jamais lancé aucun appel pour une adolescente disparue. La première piste explorée par les carabiniers est celle d'une fugue. Le téléphone des Orlandi, lui, ne cesse de sonner. Des coups de fil fantaisistes pour la plupart, comme toujours, hélas, dans ce genre d'affaires. Et des témoignages dignes de retenir un peu plus de l'attention. Le samedi qui suit la disparition, un certain Pierluigi indique avoir aperçu Emmanuela avec une autre jeune fille qui pourrait être Mireia Gregori, 15 ans, disparue un mois auparavant. Le témoin mentionne la flûte que Emmanuela transporte avec elle. Elle se serait fait couper les cheveux et se présenterait sous un nouveau prénom, Barbara. Elle aurait confié être en fugue et travailler comme mannequin pour des produits de beauté. Trois jours plus tard, un patron de bar affirme avoir vu la fameuse Barbara qui lui aurait certifié qu'elle allait rentrer chez elle. La photo d'Emmanuela Orlandi est placardée sur plus de 3000 affiches dans Rome avec cet avertissement « Scomparsa, disparue ». Le 5 juillet, deux jours après l'appel du pape, coup de théâtre à la salle de presse du Vatican. Un homme au fort accent anglo-saxon et qui serait ainsi baptisé l'Américain indique détenir Emmanuela Orlandi en otage. Elle sera libérée en échange d'Ali Aksa, l'homme qui avait tiré deux coups de pistolet en direction de Jean-Paul II le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a 20 jours pour obtenir la libération d'Aksa, considéré comme l'un des membres des Loups Gris, un groupuscule turc d'extrême droite. Faute de quoi, l'otage sera tué. D'autres appels suivent, 16 au total. Tous demandent la libération d'Aksa. Le juge d'instruction ne croit pas à cette piste, mais l'affaire est néanmoins prise au sérieux. Les ravisseurs présumés obtiennent que le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Agostino Casaroli, serve d'intermédiaire lors des tractations. Une ligne téléphonique spéciale est installée, mais les négociations vont faire long feu. L'hypothèse des Loups Gris et de Aksa va perdurer. Elle ne sera officiellement refermée qu'en 1997, 14 ans après la disparition, sans avoir livré, bien sûr, tous ses secrets. Nicolas Senez, ancien correspondant du Vatican pour le journal La Croix. Question très simple. Pourquoi le pape prend la parole et s'exprime sur un dossier aussi sensible, hein ?
Ben, tout simplement parce que ça touche le Vatican. C'est cette jeune fille qui est la citoyenne du Vatican. Ça touche cette petite famille qu'est le Vatican. Donc, face à l'émoi, il y a le besoin du père de cette petite famille de calmer, de rassurer, d'essayer de trouver une issue de secours.
Alors, je vous suis, sauf que le Saint-Père, lui, il dit tout de suite c'est un enlèvement. Il n'y va pas par quatre chemins, le Saint-Père. Jusqu'à présent, la police était beaucoup plus discrète. Philippe Ridet, peut-être une
réflexion là-dessus. Moi, je pense qu'il faut relier, oui, il faut relier ça aussi au contexte à l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier que, certes, en 83, on n'est plus tout à fait dans les années de plomb, mais enfin, on est quand même dans un contexte italien.
Préciser, Philippe, les années de plomb, c'est
alors,
le terrorisme.
C'est le terrorisme, les terrorismes à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui vont tenter de prendre en otage l'État italien par la violence. Et on est dans ce contexte-là. Et des enlèvements, il y en a à la fois, il y a des enlèvements dans des cadres terroristes, et puis il y a des enlèvements aussi dans des cadres de droit commun, notamment en Sardaigne. Le bandissarde, l'enlèvement en Sardaigne est une véritable industrie où on enlève des gens pour réclamer des otages. Le petit-fils de Paul Getty, le milliardaire américain, avait été enlevé, on lui avait coupé un morceau du doigt de pied ou du lobe de l'oreille, je ne me souviens plus, pour montrer qu'on détenait bien ce personnage.
Donc c'est un terme presque banal.
Oui, on est dans un climat où la violence, qu'elle soit politique ou de droit commun, est quand même assez forte. Et je pense que le pape doit avoir ça aussi en tête quand il parle d'enlèvement. Je ne suis pas sûr qu'il sache oui. Quelque chose de particulier, mais il tient compte du climat
qui règne à cette époque. Nicolas Senèze, dans tous les cas de figure, on entre, si je puis dire, la porte est ouverte sur le Vatican. Là, le pape a ouvert la porte sur le Vatican. Il y a une fenêtre ouverte depuis cette affaire.
Oui, tout à fait. En même temps, le Vatican, lui, n'a pas les moyens d'enquêter. À l'époque, les services de police, la gendarmerie vaticane, n'a pas les moyens. Ils savent très bien faire les pickpockets sur la place Saint-Pierre, mais ça s'arrête là. Les affaires un peu plus complexes de meurtre, et je ne parle pas des affaires financières, ils sont encore très loin d'avoir les compétences pour ça.
Bien sûr. Philippe Ridé, alors là, une première piste importante qui se dessine, on a vaguement évoqué la fameuse BMW, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, ça n'a rien donné. Cette première piste, c'est évidemment Aliaksa, cette espèce de chantage téléphonique directement auprès du Saint-Siège. Là.
Alors oui, mais à ce moment-là, pourquoi enlever la fille d'un employé subalterne du Vatican,
c'est une question.
Pour l'échanger d'une certaine façon contre l'homme qui a voulu attenter à la vie du pape. Alors même si cet homme est un sous-fifre des loups gris ou je ne sais trop quelle organisation d'extrême droite turque ou bulgare, le marché paraît un peu disproportionné. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, parce que c'est pas difficile d'enlever dans Rome un prélat d'une certaine importance. Je veux dire, ces gens-là se promènent sur la Via della Conciliazione ou dans le centre-ville de Rome d'une façon tout à fait libre. Et c'est pas la peine d'aller mettre en scène un enlèvement d'une fillette,
d'une gamine, oui, 15 ans,
joueuse de flûte, pour l'échanger contre Aliaksa, qui est quand même à cette époque, encore une fois, c'est pas rien d'avoir voulu tuer le pape. C'est un peu l'homme qui avait voulu tuer Kennedy. Enfin, oui, c'est la même importance. Donc,
selon vous, ça tient pas, Philippe, cette espèce de piste.
Moi, j'ai du mal à croire à cette piste parce que les termes de l'échange me paraissent disproportionnés.
Nicolas Senèze, vous êtes d'accord avec ça?
Pour moi, c'est peut-être que des gens ont voulu exploiter cette affaire-là pour faire libérer leur ami Aliaksa, mais qu'ils aient monté toute cette opération me paraît un peu bizarre.
Aliaksa qui dira d'ailleurs, mais il a dit tellement de choses et souvent n'importe quoi, qu'effectivement c'était bien une opération menée pour le faire libérer. Quoi qu'il en soit, le Vatican est en pleine tempête, au cœur de cet étrange chantage autour de Aliaksa. Il va rester à l'épicentre de l'affaire Emanuela Orlandi avec l'évocation d'une deuxième piste, tout aussi spectaculaire, mais purement mafieuse celle-ci. Le 11 juillet 2005, sur la Rai Tre, lors de l'émission Chi l'ha visto, le perdu de vue italien, un coup de fil anonyme fait brutalement ressurgir le spectre de l'affaire Emanuela Orlandi. Pendant toutes ces années, le dossier n'a livré aucune piste probante. La famille de l'adolescente, et en particulier son frère Pietro, n'a pourtant cessé de remuer ciel et terre pour trouver le moindre indice. Lors de l'émission télé, la voix anonyme livre cette phrase qui s'apparente à une énigme à résoudre. Si vous voulez en savoir plus sur Emanuela Orlandi, regardez la tombe de Depedis. Enrico Depedis n'est autre qu'un mafieux sanguinaire qui, à la tête de sa bande, la Maliana, avait mis en coupe réglée la ville de Rome dans les années 70-80. Il a été assassiné en février 1990 et sa tombe, à la surprise générale, est retrouvée à la basilique Saint-Apollinaire, église réservée aux plus hauts dignitaires de l'Église et du Vatican. Pourquoi autant d'honneur pour un parrain qui aurait du sang sur les mains? Le recteur de la basilique répond que le gangster était un bienfaiteur et avait beaucoup œuvré pour l'Église. Bienfaiteur ou pas, la piste Enrico Depedis va prospérer et diffuser un fort parfum de scandale. L'ancienne maîtresse du truand révèle que celui-ci a enlevé Emanuela Orlandi. Elle aurait finalement été tuée et son corps jeté dans une bétonnière. Selon ce témoignage effectué devant les enquêteurs et un tribunal, la jeune fille aurait été droguée et séquestrée dans l'immense sous-sol d'une maison rue Antonio Pignatelli. La demeure et ses caves gigantesques sont explorées mais ne délivrent aucune trace d'Emanuela. Si le parrain romain s'en est pris à Emanuela, c'est pour faire pression sur le Vatican. Enrico Depedis aurait prêté beaucoup d'argent sale à la Banque du Vatican tenue par Mgr Marcinkus, mais n'aurait jamais récupéré sa mise. En enlevant Emanuela Orlandi, le Saint-Siège aurait été averti que les langues allaient se délier et qu'il fallait payer sa dette. Le 14 mai 2012, la tombe de Depedis est ouverte dans le cadre de l'enquête. Elle ne renferme que la dépouille du mafieux et pas du tout le corps d'Emanuela Orlandi, comme certains avaient fini par le croire. Le Vatican se félicite de cette initiative judiciaire. Le Saint-Siège souhaite que l'enquête aboutisse. Le procureur de Rome avait déjà fait procéder à des arrestations dans les milieux du banditisme. Le 18 mai, le recteur de la basilique, Don Pietro Vergari, est inculpé de complicité d'enlèvement. Il lui est surtout reproché sa proximité avec le chef mafieux et le fait de lui avoir accordé cette sépulture. Le recteur dira tout ignorer de la disparition de l'adolescente. Les poursuites finiront par s'éteindre. Philippe Ridet, ce soir dans le studio de l'heure du crime, ancien correspondant à Rome pour le journal Le Monde. Alors évidemment, on s'arrête sur cette deuxième piste très spectaculaire, elle aussi, celle du grand banditisme et de ce fameux Depedis. Alors lui aussi aurait enlevé l'adolescente pour faire chanter le Vatican.
Voilà, c'est à nouveau un chantage, puisque à chaque fois on élabore une théorie, donc un chantage pour libérer Alexa, un chantage cette fois pour récupérer des fonds qui auraient été placés au sein du Dior, donc l'Institut des œuvres religieuses, autrement dit la Banque du Vatican, qui est une banque qui est systématiquement au centre des soupçons
et des scandales
dans ces années-là et les années suivantes, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps et peut-être encore maintenant. Donc à nouveau, il faut trouver une explication qui permette de justifier la disparition de cette jeune fille. Donc on ressort Enrico Depedis, qui est un personnage qui est un Romain. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autre ville au monde où il y a des personnages de ce type-là. C'est un homme très élégant, très beau, paraît-il. On l'appelle le dandy, c'est pas pour rien. Il s'habille à la perfection, comme les Italiens peuvent le faire. Il manie le revolver aussi, s'il faut le faire, avec élégance, j'imagine. Il mourra assassiné, et on va retrouver son corps. Enfin, l'Église va nous apprendre que Enrico Depedis est enterré au sein d'une basilique à Saint-Apollinaire, en plein centre de Rome, et à quelques mètres de l'endroit où Emanuela Orlandi a disparu. Tout ça, il faut se rendre compte que toute l'action se situe dans un mouchoir de poche.
Oui,
on est à 50 mètres de la place Navone, où défilent quasiment 100 000 personnes, des touristes par jour, et à 50 mètres du Panthéon, où il y en a tout autant. Donc c'est pas un enlèvement. Tout ça se déroule pas sous des rideaux. Non, on est en plein jour et dans un endroit particulièrement fréquenté.
Je le précise, Philippe Ridet, le fameux Depedis, ça serait sans doute l'homme qui était au volant de la BMW.
Alors,
en tout cas, il ressemble fortement
à celui qui aurait été vu à côté de
Emanuela. Encore un petit mot, Philippe. Tout tient, il faut le dire quand même, même brièvement, tout tient sur le témoignage de la maîtresse de Depedis, Sabrina Minardi.
Sabrina Minardi, qui est un personnage, c'est l'ancienne femme d'un footballeur de la Lazio de Rome. Alors la Lazio, c'est pas n'importe quelle équipe de Rome.
On va pas refaire toute l'histoire de Rome.
C'est une équipe qui est réputée fasciste. Alors on dit, donc c'est les fascistes, donc comme les loups gris bulgares. Enfin, on va refaire des connexions comme ça. Donc on est dans un tout petit monde et on va projeter sur ce tout petit monde des fantasmes planétaires.
Nicolas Senez, ancien correspondant du journal La Croix au Vatican. Alors, une nouvelle fois, l'attention est sur le Saint-Siège, avec l'apparition de ce scandale autour de la Banque du Vatican, avec un personnage, c'est Monseigneur Marcinkus. Lui, on le voit apparaître dans cette affaire. C'est un homme sulfureux, quand même, il faut le dire.
Oui, c'est le patron sulfureux du sulfureux Ior, qui est vraiment cette banque sur laquelle on a raison plaqué beaucoup de fantasmes, parce que c'était finalement une banque offshore. Le Vatican est un État souverain, enclavé dans l'Italie, enclavé dans Rome. Donc c'était très facile, en particulier au moment des années de plomb, pour les fortunes italiennes, d'aller mettre de l'argent à l'abri, finalement, au Vatican. Il suffisait de passer la frontière avec une valise. Et donc, voilà, on a commencé par mettre de l'argent comme ça à l'abri d'un éventuel coup de main des communistes. Et puis après, des mafias ont facilement pu utiliser l'IOR.
Évidemment, et l'ont utilisé, puis ça a été prouvé dans des enquêtes de la justice italienne. Encore une simple petite question, mais elle est essentielle. Pourquoi est-ce qu'on aurait enlevé cette adolescente pour faire pression sur le Vatican ? Pourquoi la mafia romaine aurait enlevé cette adolescente ?
Envoyer un message.
C'est une espèce de chantage ?
On pourrait le dire comme ça. C'est un message envoyé par la banda de la Maliana à des autorités supérieures et autrement supérieures à celles du pauvre papa de cette jeune fille, pour faire passer le message qu'on pourra être plus sévère ou plus méchant si l'argent n'est pas restitué. C'est une hypothèse.
Parce qu'il y avait eu un premier scandale aussi, celui du Banco Ambrosiano, où justement, Lior était apparu impliqué, comme un intermédiaire, le Banco Ambrosiano était tombé, et un certain nombre de gens avaient perdu beaucoup d'argent. Alors, effectivement, des gens qui ont pu perdre de l'argent là-dedans ont voulu se refaire, et donc demander le remboursement de leur investissement.
La piste mafieuse, hypothèse troublante, mais pas la dernière, loin de là. La disparition d'Emanuela Orlandi va continuer d'empoisonner la vie du Vatican. Cette fois, le dossier va prendre une lugubre tournure sexuelle. Au mois de mai 2012, le père Gabriele Amors, exorciste et écrivain, affirme qu'Emanuela Orlandi a été enlevée par la gendarmerie du Vatican sur ordre d'un évêque, Monseigneur Simeone Duca, archiviste et qui serait organisateur de fêtes sexuelles, des bacchanales, des orgies secrètes, auxquelles participeraient des responsables religieux et des personnalités. Au journal La Stampa, le père Amors indique sans autre précision que ce réseau implique une ambassade étrangère au Saint-Siège. Affirmation que tout le monde prend avec des pincettes, tout d'abord parce que l'évêque désigné comme le commanditaire des parties fines est décédé, ensuite parce que le père Amors est en guerre contre le Saint-Siège. Des déclarations quasi identiques émanant d'un ancien membre de Cosa Nostra ne vont pas changer la donne. Celui-ci affirme que la jeune fille est morte durant une orgie et son corps enterré dans l'enceinte du Vatican. Emanuela aurait pu décéder peut-être à la suite d'une overdose, des supputations scandaleuses, extravagantes, mais pas de révélation. L'enquête sur la disparition d'Emanuela Orlandi va donc se poursuivre au rythme des confidences et des témoignages plus ou moins fiables, parfois même totalement fantasques. Le 29 octobre 2018, au numéro 27 de la rue Pau, villa qui sert de siège de la nonciature apostolique, quatre ouvriers découvrent des ossements au sous-sol. Selon une première analyse, il s'agirait de ceux d'une femme. Il n'en faut pas plus pour relancer l'enquête. Orlandi, alors que deux ans auparavant, la Cour de cassation a décidé de classer l'affaire. Ces restes pourraient être ceux d'Emanuela Orlandi ou de l'autre disparue, Mireia Grigori. La famille de cette dernière habitait tout juste à côté. Le frère d'Emanuela reprend la parole. « Je suis convaincu que la vérité éclatera au grand jour. Les expertises plus poussées des légistes et des scientifiques annulent tout espoir. Les ossements n'appartiennent pas aux adolescentes. Ce sont ceux d'un homme mort entre 90 et 230 après Jésus-Christ. » D'autres hypothèses vont voir le jour et surgir au fil des témoignages. Un journaliste de l'hebdomadaire Espresso affirme ainsi que le Vatican, après avoir utilisé Emanuela Orlandi, l'aurait envoyée à ses frais dans un couvent en Angleterre. Coût de cette exfiltration, une facture astronomique, 500 millions d'euros, figurant sur un bordereau comptable. Le bureau de presse du Saint-Siège dément, s'insurge contre ces révélations, s'appuyant sur un document qui serait un faux. Nicolas Senez, je crois que vous avez assisté à cette période de fouilles, etc., qui ont débuté, notamment dans cette maison qui dépend du Vatican. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un véritable espoir, à un moment donné, qu'on puisse trouver à cet endroit-là le corps d'Emanuela Orlandi ?
Il faut savoir quand, dans cette affaire, Orlandi, dès qu'on trouve le moindre effectivement petit ossement, le moindre petit document, hop, tout de suite, la machine médiatique de la presse italienne se remet en route et il y a tout de suite tous les fantasmes reviennent. Donc, là, en quelques heures, effectivement, dès qu'on a trouvé des ossements à l'annonciature, tout de suite le nom d'Emanuela Orlandi est revenu. Sorti. De façon presque... Enfin, sans frein. C'est-à-dire que...
On était sûr du coup, quasiment.
Oui, alors qu'on est quand même sur un endroit... Toute cette zone de la Via Salaria, là, juste au nord des murailles de Rome, c'était l'ancienne nécropole de la ville romaine.
Il n'est pas rare de trouver des...
Mais dès qu'on creuse à Rome, on trouve des fouilles, des trucs archéologiques. Et dès qu'on creuse à cet endroit-là, on va trouver des tombes.
Philippe Ridet.
Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que le tempo de cette affaire, il est pas tellement donné par la justice, mais par la presse. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit que Chi l'ha visto, c'était la version italienne de Perdu de vue. C'est le contraire, c'est Perdu de vue qui est la version française de Chi l'ha visto. Chi l'ha visto, c'est une institution italienne, c'est-à-dire que très vite, la presse italienne s'est emparée du fait divers. Comme nous, en France, on a, à l'exception de quelques journaux, comme Le Parisien autrefois, etc., on a une forme de pudeur vis-à-vis du fait divers. Et la Corona Canera en Italie, c'est vraiment un genre journalistique et il faut la remplir, il faut la faire vivre. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que cette affaire est devenue à ce point romanesque.
Et Philippe Ridé, poursuivez, puisque là c'est la Stampa qui recueille les confidences de ce fameux curé exorciste. Que penser de ces affirmations de bacchanal et d'orgie? Qu'est-ce qu'il en a été dans le dossier? Est-ce que la justice est emparée de cette piste?
Oui, elle a dû faire les vérifications d'usage, mais sans y croire davantage. Là encore, on est dans une sorte de fantasme. On a été parce que cette affaire est aussi le réceptacle de toutes les craintes d'un pays, les craintes italiennes, la crainte que la mafia se soit emparée des rouages de l'État, la crainte que des services secrets étrangers profitent d'un État réputé faible comme l'État italien, la crainte de la traite des blanches. Il y a tout.
Ça veut dire en clair que l'affaire Orlandi fait peur.
Oui, elle fait peur, mais surtout elle est le sismographe un peu de ce pays et de ses angoisses.
Je vais même vous citer une phrase de Pietro Orlandi, donc qui est le frère de la disparue et qui est vraiment la personne qui mène l'enquête en Italie, et ce depuis quasiment la disparition. Tout le monde a peur ici, même ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Nicolas Senès, vous êtes d'accord avec ce jugement de Pietro Orlandi ?
Moi, je crois que dans cette histoire-là, c'est les caractéristiques quand on travaille comme journaliste en Italie, et avec les journalistes, les collègues italiens, il y a cette phrase qui revient vite, qui est un peu, on appelle ça l'adage caché de la presse italienne, c'est « on ne va pas gâcher une belle histoire avec des faits ». Et je crois que là, on est tout à fait là-dedans.
Dans le roman.
Qu'importe les faits, finalement, on a une bonne histoire.
Affaire décidément interminable, un cimetière, l'un des plus secrets de Rome et propriété du Vatican, va être fouillé. Le corps de l'adolescente y serait inhumé. Ultime chance, peut-être, de connaître la vérité. C'est l'avocate des Orlandi, Laura Sgro, qui a reçu ce courrier anonyme. La lettre donne une nouvelle clé pour retrouver Emanuela. Cherchez à l'endroit où pointe l'ange, est-il écrit. Le pli est accompagné d'une photo montrant des pierres tombales. Le lieu est finalement identifié comme le cimetière teutonique du Vatican, un endroit où reposent des familles princières allemandes ou autrichiennes. Sur une tombe est effectivement découvert un ange qui lit une tablette où sont inscrits les mots « Repose en paix ». Un an plus tard, le 11 juillet 2019, les autorités du Vatican acceptent la demande de la famille. Autorisation accordée de procéder à des fouilles dans le cimetière. Deux tombes adjacentes, placées sous le regard de l'ange de pierre, sont ouvertes. Celles de deux princesses, Sophie von Hohenlohe et Charlotte Frédérique de Mecklenburg. Inhumées au 19e siècle. Surprise, les tombes sont vides. Les ossements auraient été transférés vers d'autres sépultures en haut cours de travaux. Pas de corps d'Emanuela. D'autres fouilles vont être conduites dans deux ossuaires du Vatican. Les restes enfouis dans le sous-sol du collège pontifical vont être étudiés pour établir une éventuelle correspondance avec Emanuela Orlandi. Le Vatican dit ne rien vouloir cacher. En autorisant ces fouilles, le pape François veut montrer sa volonté d'ouvrir les archives sur des questions anciennes et d'être beaucoup plus transparent, analyse Ludmila Akone, une spécialiste de l'Italie interrogée par le journal 20 minutes. À ce jour, même si la justice italienne n'enquête plus officiellement sur le cas Orlandi, le dossier n'a jamais été refermé, susceptible d'être rouvert au détour d'un simple témoignage. Nicolas Senès, ancien correspondant du journal La Croix, à Rome, ces fouilles, vous les connaissez bien. Il y a vraiment cette volonté maintenant du Vatican de tout ouvrir, de montrer, d'aller au bout de toutes les analyses, des expertises possibles.
La transparence, c'est vraiment la volonté du pape François sur tous les dossiers gênants. Et sur ce dossier-là en particulier, le Vatican a toujours accepté, dès qu'il y a eu une demande sur cette affaire Orlandi, une demande de la justice italienne, ils ont répondu. Là, donc, il y a eu effectivement cette nouvelle demande, et très facilement, ils ont pu faire les fouilles. Donc là, c'est la police du Vatican qui s'en est occupée, avec la présence finalement d'avocats, d'experts médico-légaux italiens. Mais tout ça, c'est fait en grande transparence, qui est vraiment le nouveau mot d'ordre de François.
Quels ont été les résultats, Nicolas Senès, de ces expertises? On ne les a pas encore, notamment sur l'ossuaire. Hein, là, je vous parle
sur l'ossuaire, on n'a rien trouvé qui puisse se rapporter à Emanuela Orlandi. Mmh. Donc ça reste des ossements effectivement qui étaient des ossements des tombes des alentours qui ont été regroupés à différents moments, en particulier dans les années 60-70. Voilà, on n'a pour l'instant rien trouvé.
Alors Nicolas Senès le précisait il y a quelques minutes, effectivement dès qu'il y a le moindre petit truc, ça rebondit. Philippe Ridet, vous avez été en poste pour le journal Le Monde à Rome et vous connaissez bien cette affaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui côté judiciaire? Ça peut repartir dès qu'il y aura un nouvel élément?
Je pense que ça peut repartir dès qu'il y aura encore des gens qui auront gardé la mémoire de cet événement. C'est-à-dire que je pense que ce qui mettra fin à l'affaire Orlandi, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de survivants de cette époque. Et donc là, l'affaire, elle s'arrêtera d'elle-même. Mais tant qu'il y a un petit intérêt, le frère... Moi, ce qui me surprend, par exemple, je vous entendais dire de cette femme qui dit « Allez voir au cimetière teutonique, sous le signe de l'ange et tout ça. » J'ai l'impression d'être dans Le Secret de la Licorne à la fin, quand Tintin et le capitaine Haddock sont dans les caves de Moulin Zard.
C'est la vérité, c'est une lettre reçue par la famille.
Oui, c'est une lettre reçue par la famille. Mais le ton de cette lettre m'apparaît tellement romanesque, tellement... j'ai l'impression d'être dans une telle fiction... assez belle d'ailleurs, hein, que j'ai du mal à croire que cette histoire ne puisse être résolue par une enquête judiciaire. Je crois que c'est une histoire qui est une histoire littéraire et donc et à laquelle j'ai bien peur qu'on ne trouve jamais le mot de la fin.
Alors ben justement, une fiction et des fantasmes, et là j'ai besoin, messieurs, vous êtes les spécialistes, de vos lumières, parce que moi j'aimerais avoir votre avis. Toutes les pistes se sont écroulées dans ce dossier. Hein. La mafia, ça n'a rien donné. Le chantage à l'IAXA non plus. La filière pédophile, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup prospéré. Philippe Ridet, ben, allez-y, lâchez-vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Quelle est, selon vous, la thèse qui prévaut?
On peut aussi imaginer que toutes les quatre hypothèses sont bonnes, c'est-à-dire financières, terroristes, pédophiles, etc.
Trop facile, ça.
Voilà, trop facile. Moi, j'ai une théorie, mais quand j'en parle avec des Italiens, après, ils disent que j'exagère, que je ne me fais pas que des amis quand je dis ça. Mais je pense que les Italiens, et je mets vraiment, je m'excuse auprès d'eux avant de dire ça, sont des gens qui ont un rapport un peu élastique à la vérité, ou du moins qui n'aiment pas tant la vérité. Ce qu'ils adorent, c'est les hypothèses. Parce que la vérité, elle met fin à une histoire. Et l'Italie, c'est le pays des histoires sans fin. Et quand on aime le fait divers, c'est un paradis du fait diversier d'Italie. C'est vraiment un paradis pour ça.
On est d'accord, histoire sans fin, mais là, on n'a pas retrouvé le corps, etc.
Alors, donc,
pas d'explication. Nicolas Senès, vous, quel est votre sentiment là-dessus? Vous penchez plutôt pour quoi? Sur une hypothèse strictement criminelle, la mafia?
Moi, je pense qu'on ne saura jamais. Ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'effectivement, Emanuela Orlandi s'est trouvée à un moment au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'elle a peut-être vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir, et que ça s'est fini. Alors peut-être la mafia, le fait qu'on ne retrouve pas le corps, c'est quand même assez caractéristique de leur manière de faire. Ensuite, toutes les broderies autour, j'y crois assez peu.
Et il faut dire, Nicolas Senès et Philippe Ridet, hein, l'enquête a été extrêmement longue sur la mafia. Ils ont mis beaucoup de moyens, la justice, pour essayer de remonter cette piste. Hein. Ça n'a pas du tout été traité à la légère.
Non, les magistrats les plus galonnés de ce pays, que ce soit, on a dit, Giancarlo Cataldo, Imposimato, enfin des magistrats de renom, hein, qui ont eu affaire dans la suite de leur carrière à des affaires lourdes, se sont cassés les dents sur cette affaire-là. Mais en même temps, il y a beaucoup de pistes qui ont été peut-être un peu négligées au début, donc on sait ce que c'est. Si on ne trouve pas la meilleure piste dès le début de l'enquête. Après, bon, y a des preuves qui vont être détruites, il y a des choses qui vont se perdre. Probablement, il y a de ça aussi.
La première piste, la piste de la voiture de la BMW dans laquelle se trouverait le chef mafieux, était la bonne et peut-être qu'il fallait
la suivre rapidement.
Mais
la famille a d'abord cru à une fugue pendant longtemps. Donc, le temps que l'enquête se mette véritablement en route sur cette piste-là, peut-être c'était déjà trop tard.
En un mot, messieurs, est-ce qu'on trouvera un jour la vérité sur Emanuela Orlandi? Est-ce qu'on saura? Philippe Ridet.
Bon, je vais essayer de faire un pari, je pense que non, mais bon, je serai peut-être plus là
pour en parler.
Pour en parler.
je vous souhaite le contraire. Nicolas Senez.
Je pense que non plus. Ouais.
On ne trouvera pas. Ouais, donc ça restera un éternel mystère.
On voit dans 10 ans.
Cette histoire, Emanuela Orlandi, on en reparlera sans doute à ce moment-là. Merci beaucoup Philippe Ridet et Nicolas Senez d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacrée au mystère Emanuela Orlandi, la disparue du Vatican. Plus de 37 ans d'énigmes et de mystères. Affaire à suivre donc. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.